Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, Olivier Aymon.
Ils sont parfois vus comme une menace pour la Terre, au point qu'on les surveille de près et qu'on imagine même des stratagèmes pour nous en protéger. Les astéroïdes occupent une place importante dans notre système solaire, eux qui sont des témoins du passé.
Le début de notre système solaire, ça a commencé avec un grand nuage de poussière et de gaz. Cette nuage de poussière s'est concentrée. Au centre, il y a une étoile, notre Soleil, qui est née. Tout autour, tous les petits morceaux de poussière se sont agglomérés entre eux. Ces morceaux, après un certain temps, ils ont formé des planètes. Mais les morceaux qui n'ont jamais pu former des planètes, c'est les astéroïdes.
Naomi Murdoch est planétologue à l'ISAE Supaéro à Toulouse, co-investigatrice de la mission ERA, spécialiste donc de ces astéroïdes que l'on rencontre sous forme de ceinture juste après Mars.
Alors, la ceinture d'astéroïdes. Quand on passe à travers la ceinture d'astéroïdes, en fait, on verrait presque rien du tout. Parce que là-dedans, il y a des grands espaces vides, mais il y a aussi des astéroïdes. Les astéroïdes, c'est des roches qui restent, c'est des briques restantes de la formation planétaire. Et là-dedans, dans la ceinture d'astéroïdes, on en trouve beaucoup, beaucoup, des centaines de milliers, voire des millions d'astéroïdes, qui sont des roches qui se baladent dans l'espace, mais avec beaucoup d'espace entre eux.
On y rencontre des astéroïdes de toute taille.
Les astéroïdes, ils vont de quelques centimètres, voire même plus petits, jusqu'à des dizaines de kilomètres en taille, voire même des centaines de kilomètres. Le plus grand astéroïde, c'est à peu près 1000 kilomètres. C'est l'astéroïde Cérès, qui est le plus grand astéroïde dans la ceinture principale.
Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent? Ils passent leur temps à tourner?
Ils tournent autour du Soleil, comme les planètes. Ils tournent tous sur eux-mêmes et autour du Soleil.
Il y a une deuxième ceinture dans le système solaire. Alors là, on va beaucoup plus loin, ça s'appelle la ceinture de Kuiper, on dépasse un certain nombre de planètes, c'est à peu près la même chose?
Alors la ceinture de Kuiper, effectivement, c'est beaucoup plus loin, et là c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a une différence de composition par rapport à la ceinture d'astéroïdes. Pourquoi? Parce que la composition de ce qu'on trouve, ça dépend où les matériaux se sont formés. Et du coup, les astéroïdes, ils sont passés près du Soleil, ils ont été beaucoup réchauffés. Et du coup, il ne reste plus beaucoup de volatiles, des glaces, des choses qui sont très froides. Par contre, au-delà de Pluton, la ceinture de Kuiper, là, on va retrouver des matériaux avec beaucoup plus de volatiles, c'est-à-dire des choses qui ressemblent plus à de la glace.
Et s'il reste de la glace, c'est parce qu'on est très très loin du Soleil par rapport à l'autre.
Exactement, donc ils n'ont jamais eu le temps de chauffer près du Soleil. Du coup, ils ont gardé cette glace qui est là depuis le début du système solaire.
Et alors si on continue comme ça ce panorama, il y a presque encore une troisième ceinture, le nuage d'Oort, plus ou moins la limite du système solaire. Alors là, c'est encore quelque chose de plus diffus, de plus mystérieux.
Oui, c'est très 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 loin. La ceinture d'Oort, c'est 50 000 fois plus loin que la distance entre la Terre et le Soleil. C'est si loin qu'on ne l'a jamais pu observer. En fait, on sait que ça existe, mais qu'avec des modèles et des théories. Mais aujourd'hui, on n'a jamais pu voir vraiment ce qu'il y a là-dedans.
Les deux autres ceintures, on y est déjà allé? On les observe peut-être depuis la Terre, mais est-ce qu'on a déjà envoyé des sondes?
Alors, il y avait une sonde qui est allée vers Pluton, qui a pu regarder de près Pluton pour la première fois. Et ça, c'était déjà extraordinaire, et qui passait loin, près de la vie à la ceinture de Kuiper. Mais c'est compliqué d'observer de la Terre. C'est difficile d'observer ces objets qui sont si loin. Mais on arrive, la ceinture de nuages d'Oort, comme j'ai dit, on n'arrive pas et on n'ira pas avec une sonde spatiale. C'est trop loin.
Ça veut dire qu'on sait des choses sur ces ceintures d'astéroïdes, sur la façon dont elles fonctionnent, sur les éléments qui la composent, mais finalement, on ne sait pas tout, on a encore beaucoup de choses à découvrir.
Les astéroïdes, c'est des objets fascinants, parce que là-dedans, ils gardent des secrets de comment notre système solaire s'est formé. Aujourd'hui, on n'a toujours jamais regardé à l'intérieur d'un astéroïde. Et du coup, on ne sait pas nécessairement ce qu'il y a là-dedans, et à quel point la surface est représentative de ce qu'il y a à l'intérieur de ces objets.
Si on les connaît un tout petit peu, et par rapport à ce que ça peut nous raconter de l'histoire du système solaire, qu'est-ce qu'on a pour l'instant comme grande idée autour de ces astéroïdes?
Il y a 4,56 milliards d'années, le début de notre système solaire, ça a commencé avec un grand nuage de poussière et de gaz. Cette nuage de poussière s'est concentrée, et au centre, il y a une étoile, notre Soleil, qui est née. Tout autour, tous les petits morceaux de poussière se sont agglomérés entre eux, petite par petite, et ils sont devenus de plus en plus grands. Ces morceaux, après un certain temps, ils ont formé des planètes. Mais les morceaux qui n'ont jamais pu former des planètes, c'est les astéroïdes. Et c'est les briques restantes de cette formation planétaire. Et en fait, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, c'est une planète qui aurait pu former, mais à cause de les interactions gravitationnelles avec Jupiter, Jupiter a déchiré tous les morceaux qui auraient pu s'agglomérer. Et du coup, cette ceinture d'astéroïdes est là, parce que c'est une planète qui n'a jamais pu former.
Cette organisation, elle est figée, ou est-ce que sur des périodes de temps évidemment très très longues, mais sur des milliards ou des dizaines de milliards d'années, ça pourrait changer? Par exemple, ce que vous dites sur cette ceinture qui est une planète qui n'a pas eu la chance de se former, est-ce qu'un jour elle pourrait se former?
Alors la planète ne va pas se former dans la ceinture d'astéroïdes parce que Jupiter est là, elle empêche cette planète de former. Par contre, c'est vraiment un environnement très dynamique parce que ce qui se passe, c'est les astéroïdes, parfois, il y a des collisions entre eux, il y a des différentes interactions qui vont forcer les astéroïdes à être éjectés de la ceinture d'astéroïdes et venir plus proche de la Terre. On les appelle les géocroiseurs quand ils viennent dans l'espace proche de la Terre. Et du coup, ça peut arriver de temps en temps que les orbites changent. Et c'est justement ces astéroïdes qu'on voit plus à la télé quand on parle des astéroïdes, parce que c'est des astéroïdes qui pourraient éventuellement être menaçants pour la Terre.
Alors on va revenir sur cette question de la menace potentielle pour la Terre, mais si on continue à observer ces objets, il y en a quelques-uns qu'on est allé voir de très très près, et récemment, avec des missions qui se sont menées, missions japonaises, missions américaines par exemple. On est allé piquer la surface pour ramasser un peu d'échantillons. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On parle d'objets qui font quelques centaines de mètres de diamètre.
C'est incroyable ce qu'on arrive à faire en ce moment. C'est vraiment un moment extraordinaire pour l'exploration des astéroïdes. Donc récemment, comme vous dites, il y avait deux grandes missions dont on parle. Il y avait OSIRIS-REx de la NASA qui est allé vers l'astéroïde Bennu. Et cette mission est allée prendre un échantillon de la surface de l'astéroïde. Effectivement, on était complètement épatés de voir la réaction de la surface quand on a essayé de prendre l'échantillon. La sonde est descendue vers la surface. Et au moment quand ça a touché la surface qui a l'air d'être un tas de gravier, c'est une surface qui avait l'air solide, on le touche avec la sonde. Et ce qui se passe, c'est que la sonde commence à pénétrer dans la surface et la surface coule comme un liquide. Donc il y a ce comportement complètement pas intuitif qui arrive à la surface. Et c'est une des choses qu'on essaie d'étudier dans notre équipe, c'est pourquoi les surfaces d'astéroïdes répondent d'une manière si peu intuitive quand on va les toucher. Et la raison, c'est la faible gravité. Donc ces objets, c'est quelques centaines de mètres en taille. La gravité est extrêmement faible par rapport à la gravité terrestre. Et du coup, il ne faut vraiment pas imaginer que les matériaux vont se comporter sur un astéroïde comme sur la Terre. Et là, on a touché, avec la sonde OSIRIS-REx, on a touché à une vitesse assez faible, de l'ordre d'un mètre par seconde, c'est pas grand-chose. Et avec la gaz aussi qui était utilisée pour récupérer l'échantillon, je pense que les estimations, c'est qu'on a éjecté 6 tonnes de matière de la surface. Même avec ces très, très, très faibles impacts, ces très faibles expulsions.
Avec un tout petit appareil, finalement.
Exactement. Et après, il y avait la mission de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, exactement. Et cette mission, encore une fois, incroyable. Il y avait plusieurs défis. Un, c'était d'essayer de générer une cratère artificielle à la surface de l'astéroïde. Donc, ils ont lancé une explosive, donc une petite bombe en fait, qui a explosé et qui a tiré un projectile à la surface de l'astéroïde pour essayer de former une cratère, pour voir comment ça marche, en fait, le processus de former un cratère quand on a très peu de gravité. Et encore une fois, les résultats ont été épatants. On a l'impression que la surface est très, très, très faible. En fait, ça ne répond pas du tout comme une surface reprendrait sur Terre. Donc, mission extraordinaire qui a également pris des échantillons de la surface pour les ramener sur Terre. Take a look at the old man, beating up the wrong guy.
Oh man, wonder if he'll ever know. Comment on a sélectionné ces astéroïdes qu'on est allé voir? Vu la masse et vu le nombre d'astéroïdes, comment on se dit on va cibler celui-là et celui-là?
Alors ça dépend de la mission spatiale. En général, les missions, on va essayer de cibler des astéroïdes, les géocroiseurs. Pourquoi? Parce qu'ils viennent plus proche de la Terre et du coup c'est plus facile d'y aller. On a besoin de moins de carburant et ça prend moins de temps pour y aller. Après, il y a différentes considérations en fonction des objectifs de la mission. Donc, pour les missions OSIRIS-REx et Hayabusa 2, les missions dont on vient juste de parler, eux, ils voulaient vraiment viser un astéroïde primitif, c'est-à-dire un astéroïde d'une classe assez spécifique qui a été très peu transformé depuis le début de notre système solaire. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment aller chercher ces briques restantes de la formation planétaire. Et en faisant ça, on veut essayer de choisir les astéroïdes qui ressemblent le plus à ce qu'il y avait il y a 4,56 milliards d'années ici. Et du coup, ces deux astéroïdes, ils ont été choisis. C'était un type C, un type très primitif. C'est des classes spectrales, c'est-à-dire on utilise une technique qui s'appelle la spectroscopie pour analyser leur composition chimique. Et on peut faire ça depuis la Terre avec les télescopes. Et avec les spectroscopies, on classifie les objets dans différentes classes. Donc la classe S, c'est les classes qui sont plutôt formées de silica, comme c'est des roches. La classe C, c'est plutôt des objets qui sont carbonaceux. Et après, on peut aussi avoir des classes M, et là, on va trouver des métaux. Et c'est des classes C que, si on regarde où ils sont formés dans le système solaire et on retrace en arrière leur évolution dynamique, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup chauffé par rapport aux classes S qui ont été beaucoup plus proches du Soleil. Et du coup, c'est les classes C qu'on veut viser pour retrouver les briques de formation et peut-être les éléments, les ingrédients qui ont pu amener la vie sur Terre.
Alors, on les regarde depuis la Terre, on envoie des sondes tourner autour, on envoie des engins pour aller sur la surface, et même, on fait plus que ça, on va ramener ces échantillons. Les premiers sont arrivés il y a plusieurs mois avec ce retour d'Hayabusa. C'est la première fois qu'on ramène des échantillons d'astéroïdes sur Terre, et pour pouvoir les analyser avec les instruments qu'on a à disposition dans les laboratoires.
Alors, c'est la première fois qu'on ramène des échantillons d'un astéroïde primitif. Après, il y a déjà eu des retours d'échantillons avant. Il y avait une mission qui s'appelait Stardust qui a attrapé de la poussière intercométaire. Il y avait aussi la première mission Hayabusa, pas Hayabusa 1 et pas Hayabusa 2, qui a ramené échantillons, mais il y avait beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de particules. Là, ce qui est vrai, c'est qu'avec Hayabusa 2, ils ont ramené un échantillon important. Bon, important, c'était 5 grammes de surface. Et on a pu analyser dans les laboratoires terrestres la composition, qu'est-ce qu'il y avait dedans. En fait, ils ont trouvé des molécules organiques à l'intérieur. Et c'est exactement ce que les scientifiques cherchaient. En fait, ces molécules organiques, on pense que c'est les ingrédients qui étaient nécessaires pour que la vie commence sur Terre. Du coup, l'idée, c'est que c'était les astéroïdes qui ont porté ces molécules sur la Terre pour que la vie puisse commencer ici.
Donc, ça raconte le début de l'histoire, finalement, du système solaire.
Et de la vie sur Terre.
Et de la vie sur Terre. Ouais. Donc il y a vraiment le lien sur ces objets très très éloignés et ce qu'on vit ici sur notre vieille Terre, qu'on essaye de protéger du coup de certains de ces astéroïdes parce que vous l'avez dit tout à l'heure, certains sont géocroiseurs, donc ça veut dire qu'ils pourraient se rapprocher d'un peu trop près de nous et du coup on se dit mais comment on fait s'il y en a un qui arrive ? Il y a des dizaines de films qui nous raconte ça, plus ou moins grand spectacle et plus ou moins réussi. Mais c'est pas que du cinéma, on tente des choses. On a tenté très récemment d'aller voir comment on pourrait en dévier un. C'est une mission qui s'appelle DART et vous en faites partie. Déjà, comment on se dit, on va choisir telle façon d'aller dévier tel astéroïde et lequel on choisit?
Déjà, peut-être commencer par qu'est-ce que c'est la défense planétaire. La défense planétaire, il y a trois étapes importantes. Déjà, il faut trouver les astéroïdes. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'espace est grand, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'astéroïdes. Et en plus, il y a beaucoup plus de petits astéroïdes que de gros astéroïdes. Aujourd'hui, on ne les connaît pas tous. D'accord ? Les grands astéroïdes, on sait tous où ils sont, on les connaît. Mais les astéroïdes qui sont plus petits, de l'ordre de 100 mètres en taille, on ne connaît même pas 50% de ces astéroïdes qui passent dans l'espace près de la Terre en ce moment.
Donc il y a déjà tout un travail de recensement, donc d'observation.
Exactement. Donc la première étape, c'est détecter les astéroïdes. La deuxième étape, c'est contraindre leur orbite, c'est-à-dire leur chemin qu'ils prennent dans l'espace pour voir si un jour, ils peuvent menacer la Terre. Est-ce que leur trajectoire, est-ce que leur orbite croise l'orbite de la Terre? Et la troisième étape, c'est de dire, OK, on a trouvé un astéroïde, ça menace peut-être la Terre, on va essayer de le divier, de le bouger dans l'espace pour éviter un eventual impact. La technique qu'on va choisir, ça dépendra de deux facteurs. La taille de l'astéroïde et le temps que nous avons avant l'impact, pour réagir, exactement. Si on a un faible temps ou des très grands astéroïdes, peut-être on serait mené à utiliser des armes nucléaires. Mais comme je disais, on les connaît tous ces grands astéroïdes. Ce n'est pas les grands astéroïdes qui sont vraiment problématiques pour nous. C'est des astéroïdes de taille 100 à 200 mètres. Il y en a beaucoup et il faut pouvoir les dévier. Pour faire ça, on pense qu'une méthode qui s'appelle l'impacteur cinétique est la meilleure méthode. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode où on va juste envoyer une sonde à très grande vitesse et on va essayer de rentrer dans un astéroïde pour le bouger, un peu comme quand on joue au billard. En fait, c'est exactement le même principe. Et ça, c'était le concept de la mission DART de la NASA. Donc, on est allé impacter un astéroïde. L'astéroïde, c'était 160 mètres de taille. On a impacté à 6 km par seconde, c'est-à-dire dans la dernière seconde avant l'impact, la sonde a traversé 6 km. C'est important. Et on a impacté pile poil au milieu pour essayer de la dévier dans l'espace et montrer que nous avons la technologie nécessaire de dévier un astéroïde si jamais un jour il y a besoin.
Est-ce qu'on a réussi?
On a réussi, avec grand succès en plus. Donc l'astéroïde qu'on a choisi, c'était un astéroïde binaire, c'est-à-dire un astéroïde avec une lune. Et du coup, on a impacté la lune de l'astéroïde et on a changé ce qu'on appelle la période orbitale, le temps que ça prend pour la lune de faire tout le tour de l'astéroïde primaire. Et on a changé cette période de 33 minutes. Et c'était un effet assez important et on a vu ça avec toutes les éjectas qui étaient renvoyées lors de l'impact. En fait, le plus d'éjecta qui est produit, le plus efficace est ce transfert d'énergie de la sonde vers l'astéroïde.
Donc, quand on voit tout ce qui est éjecté au moment de l'impact, ça nous donne une idée de la modification de sa route qu'on peut avoir.
C'est ça. On attend maintenant la mission ERA d'Europe qui va aller visiter la scène du crime, aller regarder en détail qu'est-ce qui s'est passé, mieux caractériser l'astéroïde pour avoir quelques informations supplémentaires pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
D'un certain côté, c'est assez rassurant parce qu'on se dit que finalement, on peut réussir ce genre de mission, donc cette défense de la planète Terre.
C'est important et c'est important de se préparer parce que bien sûr, aujourd'hui, il n'y a aucune astéroïde connue qui menace la Terre. Mais c'est un réel risque. Statistiquement, il y a les astéroïdes qui existent et un jour, il se peut qu'on trouve un astéroïde qui rentrera en collision avec la Terre. Et maintenant, on a démontré avec la mission DART que nous avons la capacité de faire une mission pour dévier un astéroïde. Et bien sûr, en réalité, ce sera peut-être un peu plus complexe de mettre en œuvre des missions. Il faudrait peut-être plusieurs missions. Il faudrait toujours aller regarder l'astéroïde de près, probablement avant de faire une mission de défense planétaire. Mais en tout cas, nous savons comment faire maintenant.
Oui, parce que si on revient à la question du recensement, ces astéroïdes, ils deviennent géocroiseurs à un moment parce que, par exemple, dans la ceinture principale d'astéroïdes qui est après Mars, ils s'entrechoquent, il y a de la dynamique. Donc, ça veut dire que il y a une sorte de pouponnière qui existe. Et donc, ces astéroïdes géocroiseurs, ils peuvent naître à un moment sans qu'on le sache. Donc, il faut continuer à surveiller, en fait.
Oui, en fait, les astéroïdes géocroiseurs, ils naissent assez régulièrement. Ils vont venir dans l'espace près de la Terre et, en fait, ils vont mourir aussi. Parce qu'ils vont finir par tomber dans le soleil. Mais le taux de natalité est à peu près le même que le taux de mortalité. Et du coup, on a à peu près le même nombre d'astéroïdes dans l'espace près de la Terre en permanence. Mais effectivement, il y en a qu'on n'a pas encore découvertes. Il y a d'autres qui peuvent arriver pour la première fois aussi.
Il y a d'autres missions qui sont prévues d'observation au-delà de la défense planétaire pour aller répondre à d'autres questions encore qu'on se pose sur ces briques premières du système solaire.
Alors, il y a les plusieurs missions qui vont partir. Donc, il y a ERA qui va partir l'année prochaine. C'est la mission européenne qui va aller suivre DART et visiter la scène du crime. Ensuite, la mission OSIRIS-REx, après avoir ramené son échantillon, va aller visiter l'astéroïde Apophis. L'astéroïde Apophis, c'est un astéroïde qui va avoir un rencontre très, très proche de la Terre en 2029. Si proche que ça va passer à l'intérieur des satellites géostationnaires.
Ah oui, donc géostationnaire, 36 000
kilomètres. 36 000 kilomètres, exactement. Et c'est une opportunité incroyable. Cet astéroïde ne pose aucun problème pour la Terre, mais parce que c'est un astéroïde qui vient si proche, scientifiquement, on peut vraiment utiliser cette opportunité pour étudier un astéroïde en détail et voir qu'est-ce qui se passe quand un astéroïde passe si proche de la Terre, pour répondre à beaucoup de questions scientifiques. Et du coup, la mission OSIRIS-REx va repartir vers la mission Apophis, ça s'appelle OSIRIS-APEX maintenant, pour étudier en détail cet astéroïde.
Il y a peut-être une question première que j'ai oublié de vous poser, c'est quelle est la différence entre un astéroïde et une comète?
Alors, les astéroïdes et les comètes sont tous les deux les briques restantes de la formation planétaire, mais ça dépend où ils sont formés dans le système solaire. Les astéroïdes, ils sont formés proches du Soleil. Du coup, ils ont chauffé beaucoup pendant leur histoire. Et ce qui reste, c'est plutôt de la roche. C'est des matériaux parfois métalliques, rocheux, etc. Les comètes, ils n'ont jamais passé très proche du Soleil. Du coup, ils sont formés loin Et là, ils gardent ce qu'on appelle les volatiles à l'intérieur. Donc, c'est de la glace. Et du coup, il y a les deux grandes différences. Un, c'est la différence où ils sont formés. Et l'autre différence, c'est dynamique. Les comètes, en général, ils ont une orbite qui va de très loin jusqu'à proche du Soleil. Et ensuite, ça s'éloigne beaucoup encore. Et c'est quand ils passent proche du Soleil, c'est là quand le matériau, les volatiles, la glace à l'intérieur, ça chauffe. Et ça génère ces jolies traînées, la jolie traînée qu'on voit derrière la comète. En fait, c'est la volatilisation de la sublimation de ce matériau à la surface de la comète.
C'était Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'espace à Toulouse. Production Olivier Aymon, réalisation Clotilde Pivin, coordination Pauline Pénanec, prise de son Julien Girard, mixage, Raphaël Rasson.